Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je vous propose cet après-midi un voyage en Antarctique pour découvrir la station belge Princesse Elisabeth. Il s'agit de la première base polaire à fonctionner intégralement à partir d'énergie renouvelable. Cette base a été inaugurée en février dernier avec un objectif de zéro émission de CO2. Pour en parler, je reçois l'ingénieur et aventurier Alain Hubert qui est le fondateur et président de l'IFP, c'est l'International Polar Foundation. Alain Hubert, bonjour.
Bonjour.
On pourrait dire que c'est le grand retour des Belges en Antarctique.
Mais oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la Belgique, comme la France d'ailleurs, est un des 12 pays fondateurs du traité antarctique. Et c'est tout à fait exact de relever le fait que nos politiques, il y a déjà presque de 40 ans, par des intérêts pour la science, eh bien tout simplement, on laissait aller les choses. Et donc nous étions quelque part en porte-à-faux par rapport à nos devoirs. Et puis je crois qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est que, on le sait, la science est essentielle plus que jamais, en particulier dans ces domaines qui touchent à l'Antarctique, où les recherches climatiques sont particulièrement intéressantes pour pouvoir contribuer à donner de meilleures réponses aux problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Mais l'Antarctique, c'est un continent qui est protégé par un traité qui s'est renforcé au niveau environnemental en 92.
C'est le continent de la science et de la paix. Hein,
absolument,
hein.
Et donc c'est quand même un exemple extraordinaire. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les défis planétaires, on prend conscience des limites de notre planète aujourd'hui, et on se demande si on va être véritablement capable, en tant qu'espèce humaine, de le gouverner, et de résoudre toutes ces questions importantes qui se posent aujourd'hui. Alors je crois que... aller reconstruire une station pour la science, bien entendu, dans un endroit qui est un des plus inexplorés d'Antarctique, parce que si on va s'investir là-dedans, c'est qu'il y a une raison au niveau scientifique. C'était peut-être l'occasion, dans un moment où l'environnement rentre au cœur de la société économique et sociale, d'essayer de faire une station la plus environnementale possible. Mmh. Ça, c'est l'idée.
Alors, la station, justement, a été édifiée pendant l'été austral, 2007-2008, à l'occasion donc de l'année polaire internationale, grâce à votre fondation. Alors, qu'est-ce que le gouvernement belge vous a donné comme mission, finalement, avec cette station?
Ben, disons, le chemin a été inverse. C'est moi qui suis allé voir le gouvernement en lui disant, ben, écoutez, voilà, à l'occasion de l'année polaire, il y en a une tous les 50 ans, et celle-ci,
un
problème climatique est particulièrement important, profitons-en. Pour l'attirer, je leur ai proposé de financer une bonne partie, en fait presque trois quarts de la station avec le privé, en leur disant, ben voilà, à ce moment-là, on créera, vous mettrez le quart restant, il faudra créer un nouveau secrétariat polaire, un public privé, et puis il faudra mettre plus d'argent dans la science. Et c'est ce qui a été fait. Mmh. Et donc, ce qui montre que aujourd'hui, je crois, les grands défis climatiques doivent être pris en charge par la société civile d'abord. Je crois que c'est nous autres, citoyens, entreprises, pays en Europe, qui devons pousser quelque part nos gouvernants à prendre leurs responsabilités, parce que c'est là que se trouve notre avenir économique et donc social.
Alors l'objectif de cette base polaire, c'est vraiment d'étudier le rôle de l'Antarctique dans le fonctionnement du climat. C'est la grande idée de la station.
Mais la station s'inscrit, dois-je dire, dans la problématique scientifique globale en Antarctique. Il y a une collaboration particulière entre les différents pays qui ont des stations en Antarctique. Il faut beaucoup de stations parce que les études doivent pouvoir être menées à différents endroits pour être concordées. Donc, les sciences sont très larges. Il y a de la science fondamentale. Comme cette année, on avait donc des microbiologistes. Ben, Cyril était là, justement. Mm-hmm. D'autres sont des glaciologues, climatologues, chimistes de l'atmosphère, etc., qui ont des programmes plus basés au niveau de la problématique climatique, et surtout parce que l'Antarctique, on le sait, a un rôle tout à fait particulier avec ce grand projet EPICA, pour lequel la France, d'ailleurs, est extrêmement investie là-dedans. On a, grâce à l'Antarctique, pu découvrir des choses qu'on n'aurait pas su savoir autrement. Donc c'est essentiel, cette recherche-là.
Oui. Alors Cyril Dash, justement, en tant qu'entomologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle, comment est-ce que vous avez débarqué sur la station en janvier dernier?
Alors nous, on était quelques scientifiques dans le cadre du projet Bellaré, hein, Belgium Antarctic Research Expedition, et en particulier le projet Belvida, dirigé par Nick Villemotte, qui est un projet pour étudier la biodiversité. Et on voulait s'intéresser à la biodiversité en Antarctique à plusieurs titres. D'abord, il faut bien comprendre que quand on voit l'Antarctique, quand la plupart des gens pensent à l'Antarctique, l'Antarctique, on pense aux côtes, on pense à la péninsule qui monte vers l'Amérique du Sud. Nous, on est sur les Sorrandaine avec la station Princesse Elisabeth, qui est à l'intérieur des terres.
C'est à 200 km des côtes, hein, c'est ça, l'Hubert.
Et en altitude, à 1400 mètres. Oui.
Voilà, donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les conditions sont beaucoup plus dures. Hein, je crois, je dis pas de bêtises, Alain, c'est la dernière chaîne de montagne avant le grand plateau qui mène au pôle sud. Oui. Et en fait, on est dans une situation, on est sur un plateau de glace, d'où émergent ce qu'on appelle les lunataques, qui sont en fait les sommets de montagne. Et on est dans les conditions les plus difficiles, je crois, pour la vie, tout simplement.
Et donc vous veniez chercher des insectes ici, c'est ça ?
Tout à fait. Pour tout dire, c'est pas tout à fait des insectes, ça s'appelle des colamboles. Ils sont un petit peu à la base des insectes. Il y a aussi deux, trois espèces d'acariens. Et donc j'ai trouvé une espèce de colambole, trois espèces d'acariens. Et c'était, je dois avouer, un petit peu une surprise pour moi. Parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu ce paysage sublime, mais d'une aridité, d'une hostilité absolue pour le biologiste qui a l'habitude d'être en forêt tropicale, je me suis dit que j'étais
vous
pas
n'avez rien trouvé. Voilà,
j'avais rien
ça.
Trouvé.
Et pourtant, vous avez pourtant, trouvé, hein, ces colamboles. Alors justement, vous allez nous expliquer comment parviennent à se développer ces colamboles, hein, dans un lieu aussi hostile. Alain Hubert, donc, vous avez créé votre fondation en 2002. Quel est le but exact de votre organisation ?
Mais le but, c'est d'intensifier, de renforcer cette passerelle entre la science et la société. Je crois qu'on est à un moment où, plus que jamais, il faut comprendre mieux ce système Terre qui est le nôtre et ses interactions avec nos modes de vie. Et c'est vrai que, bon, je suis scientifique de formation, mais c'est bien au cours d'une de mes expéditions, cette grande traversée d'Antarctique, où j'ai participé à un projet scientifique que j'ai été amené à comprendre ce que c'était la science polaire, Antarctique en particulier. Ça m'a complètement fasciné. J'ai découvert finalement pourquoi aujourd'hui on devait s'intéresser à la réduction des émissions de CO2, parce que c'est bien nous qui le provoquons en exploitant nos énergies fossiles. Et donc, ben voilà, le problème, c'est qu'un jour, même si c'est pas mon métier d'être explorateur, c'est une passion, on est bien d'accord. Donc, j'ai moi-même fait rêver les jeunes, et les très jeunes en particulier. Je me suis posé des questions de savoir si je ne devais pas peut-être partager cette conviction et m'investir un peu plus dans l'éducation. C'est ça, cette fondation qui d'ailleurs est présente en France, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis maintenant, et qui donc se penche sur l'éducation, mais aussi sur la démonstration. Parce que moi, je suis un petit entrepreneur et j'ai besoin d'action. Et cette station, si elle est faite pour la science, la façon dont on l'a faite est un projet qui veut montrer que les choses aujourd'hui sont possibles.
Et évidemment, les partager donc avec le public, hein, populariser la recherche. Voilà. Hein, ça, c'est votre mot d'ordre. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Cyril Daz, vous qui êtes parmi la catégorie de chercheurs les plus chanceux, puisque vous passez votre temps non pas au Muséum d'Histoire Naturelle, mais aux quatre coins du monde, à Madagascar, en Guyane ou encore en Antarctique, hein.
Tout à fait.
Vous n'êtes pas un homme de labo, véritablement.
Je suis aussi un homme de labo, parce qu'il faut aussi faire
mais
ça.
Mais votre labo est plutôt à ciel ouvert, quand
Mon
même.
Mon labo est à ciel ouvert, tout à fait. Oui, l'éducation et la prise de conscience de cette petite planète sur laquelle on vit, ça me paraît absolument fondamental. Et là, je rejoins totalement Alain. Et j'ai même souvent coutume de dire que de protéger la planète, de protéger telle espèce animale, c'est peut-être pas très important. Sauf que c'est pour nous. C'est pour la survie de notre propre espèce, de nos propres enfants, parce qu'à partir du moment où il y aura plus cette diversité, on va se rendre compte que toutes les chaînes trophiques vont s'effondrer, qu'on va être dans un milieu invivable, une atmosphère irrespirable, et que donc on doit l'étudier, on doit faire comprendre à tout le monde l'importance de ces enjeux-là. Et l'Antarctique, justement, permet de faire des mesures extrêmement intéressantes sur toutes sortes de gaz à effet de serre, sur des endroits qui ne sont pas encore tout à fait atteints, ou qui commencent justement, on commence à voir l'influence des pollutions et de l'action humaine, et c'est un laboratoire extraordinaire pour comprendre les choses.
Alain Hubert, comment le public va pouvoir bénéficier concrètement de cette installation là qui va fonctionner donc très longtemps, qui va accueillir des scientifiques? Comment est-ce qu'en Belgique ou ailleurs on va pouvoir un peu profiter de vos recherches en Antarctique?
Mais bon, les recherches sont menées par les scientifiques, et donc ce sont eux qui les diffusent au niveau international, parce qu'il y a cette année-ci, il y avait déjà 5-6 nationalités différentes là-bas. En tant que fondation, nous avons aussi pris soin d'essayer de créer quelques bourses avec des partenaires privés pour permettre à des étudiants, soit de pays qui n'ont pas de station, soit des docs ou des post-docs, de s'investir là. C'est vrai que l'Antarctique, ça fait rêver beaucoup de scientifiques. Et les scientifiques sont d'abord des grands rêveurs, hein, qui ont envie de comprendre ce qui se passe. Et puis alors, on va aussi s'investir au niveau éducatif pour pour pouvoir véritablement, au niveau des écoles, dans différents pays, en fonction de nos moyens, donc faire partager ce rêve-là aussi.
Alors, la station donc a été inaugurée en février dernier. Je vous propose d'entendre un extrait d'un film qui a été tourné justement sur votre base et qui raconte le quotidien de vos équipes.
Donc nous prenons le petit déjeuner à 7h30, jusqu'à 8h moins quart, 8h. Par la suite, on prend le skidoo pour monter la station, prendre les ingrédients qu'il nous faut pour préparer les repas du midi et du soir. Il y a deux moyens d'acheminement des vivres. Le premier est par bateau et l'autre par avion. Donc la nourriture congelée se trouve dans des conteneurs frigorifiques et congélateurs. Et on a des conteneurs spécifiques avec des étagères. L'autre consommation, ben, on va avec une grande scie couper la neige. Et cette eau-là, on la fait bouillir.
Alors l'eau, justement, Alain Hubert, c'est un des facteurs essentiels de la vie sur cette base. Alors quel est le système de traitement que vous avez choisi pour faire vivre vos équipes de scientifiques ?
Ben là, donc, c'était un interview d'abord qui était dans notre camp, puisque comme on construisait la station, on n'y habitait pas encore. Mais on a choisi d'utiliser évidemment l'énergie solaire et le vent pour faire fondre la neige.
Ça, ce sont vos deux alliés principaux.
C'est la chance qu'on a là-bas. Ouais. Et je voudrais dire qu'il y a quand même une particularité qui sont ces fameux vents katabatiques en Antarctique, qui sont pas des vents en rapport avec la météo, qui sont des vents qui, parce que cette grande masse blanche, glaciaire, refroidit l'air qui s'écoule des hauts plateaux vers l'océan et donc augmente sa vitesse. Un vent qui a une certaine régularité et qu'on peut utiliser. Donc
Avec des pointes à combien sur place?
Sur notre site, les pointes sont à peu près à 160 km à l'heure. Mm-hmm. D'après nos mesures, donc c'est pas encore trop fort. Je sais bien qu'en Terre Adélie, par exemple, près de la base française, les pointes dépassent, je crois, les 260. Oui, c'est ça, à peu près. Donc ça, c'est énorme. Et on ne pourrait d'ailleurs pas les utiliser jusque-là au niveau de la captation de leur énergie. Oui. Mais donc, on fait fondre la neige. Et c'est vrai que la neige, il y en a beaucoup. Il faut dire que donc l'eau, elle est obtenue à partir de la fonte de la neige. Et puis, on a mis au système, on a mis au point un système de bioréacteurs en traitement aérobie, anaérobie. Donc, comme dans une navette spatiale. Ce qui veut dire qu'on
récupère... Le système est directement inspiré du spatial, je crois.
Totalement. Ouais. Totalement. Donc, en fin de course, après le retraitement à la fois des eaux noires qui viennent donc des toilettes et des eaux grises, donc des cuisines, eh bien, on peut reboire l'eau comme dans une navette spatiale.
Sauf que dans le film que j'ai vu, il est dit que psychologiquement, vous récupériez quand même la neige pour la faire fondre, pour boire l'eau, et que c'était pas utilisé, les autres eaux n'étaient pas utilisées pour la boisson.
Voilà, vous avez raison. Moi, j'ai un ami qui est astronaute et qui m'a vraiment déconseillé en me disant c'est là vraiment il faudra faire un entraînement particulier pour les scientifiques.
Psychologique, oui. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc le vent et le soleil, ça, c'est très important pour...
L'important est que les eaux qu'on va rejeter soient totalement pures. Ouais. C'est vrai qu'on pense qu'il y aura 20 à 30% d'eau qu'on laissera s'écouler alors, mais qui seront totalement purifiées.
Ouais. Alors donc des éoliennes évidemment qui ont été installées pour vous assurer une autonomie en énergie avec également les panneaux photovoltaïques. Donc ça, ce sont les procédés les plus utilisés sur la base.
La particularité de cette station, c'est qu'on produit l'énergie installée nécessaire avec seulement le dixième de cette énergie. C'est ça le prototype d'ailleurs qu'on étudie avec le groupe Suez, avec ses ingénieurs. Donc c'est vraiment la grande nouveauté de cette station. Nous avons seulement une production de 56 kilowatts au niveau des éoliennes et 52 au niveau des panneaux photovoltaïques. Et donc, il y a véritablement une couche d'intelligence qu'on a rajoutée, un cerveau aussi, qui est évidemment un ordinateur, qu'on pourra commander d'ailleurs depuis l'Europe, et qui lui, en fait, optimise le système à plus de 300% au niveau de son efficacité énergétique.
Donc, le but étant de réduire l'impact environnemental selon le traité de l'Antarctique,
Oui, bien entendu, mais au niveau énergétique, et en ça, il est inspirable pour nos sociétés, en particulier pour des grandes infrastructures, puisque c'est son efficacité, évidemment, énergétique, puisqu'on a besoin, vous disais-je, d'une puissance X, et pour la produire, et on n'utilise que le dixième, nous, on ne produit en énergie que le dixième de cela. Donc c'est ça, évidemment, qui est l'originalité du système.
Combien de scientifiques peuvent vivre, alors pas l'année, parce que c'est pendant l'été justement qu'ils sont installés.
Voilà, les scientifiques pourraient y passer l'hiver si des projets de recherche demandent à être là-bas en hiver. Mais s'il ne s'agit que de mesures et d'entretien de la station, l'ordinateur peut tout gérer depuis l'Europe. Donc c'est pour ça que nous avons prévu un système comme celui-là, parce que c'est moins cher. Mais en fait, la station peut accueillir un pic de 46 personnes et en gros, elle est calculée pour à peu près 25 personnes.
Cyril Daz, est-ce que votre recherche d'insectes s'inscrivait justement dans cette problématique du réchauffement climatique ou est-ce que vous y êtes allé en tant qu'entomologiste pour tenter de trouver donc des traces de vie animale sur le continent ?
Alors c'était dans les deux, sur ces deux axes-là évidemment. Évidemment, moi j'étais très intéressé de trouver mes animaux parce que l'Antarctique présente une particularité très intéressante dans l'hémisphère sud. Il y a 40 à 60 millions d'années, il était connecté à l'Amérique du Sud et à l'Australie. Il a dérivé, il s'est détaché et on essaie de comprendre si la faune qui est en Antarctique est une faune qui a recolonisé, s'est adaptée au froid ou si c'est une faune relictuelle. Et donc pour cela, on va s'intéresser à l'ADN évidemment et à ces petites bêtes. Ça c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect et ça c'est sur cette histoire de réchauffement climatique. Et pour cela, on a besoin de faire, en quelque sorte, une étude et de comprendre qu'est-ce qui est présent, quels sont les organismes et les micro-organismes, cyanobactéries, bactéries, lichens, collemboles qui sont présents, pour pouvoir après monitorer au fil des années, et c'est ce qui va être fait sur cette station, pour voir s'il y a une modification des faunes et pourquoi il y a ces modifications.
Prolifération, par exemple, d'insectes, pour imaginer que le réchauffement climatique puisse avoir un impact sur cette
prolifération. On peut très bien imaginer que s'il y a un réchauffement, il y aura plus d'eau liquide, parce qu'on parlait d'eau tout à l'heure, je crois que c'est ça qui est très important à dire, c'est que c'est pas tant le froid qui est le facteur limitant pour la vie, c'est que comme il fait froid, il n'y a pas d'eau liquide. Et pour qu'il y ait vie, il faut de l'eau liquide. Donc on peut imaginer que s'il y a un réchauffement, il y a plus d'eau liquide, plus de prolifération de bactéries, de micro-algues, et donc potentiellement plus de collemboles et d'autres insectes, et en particulier colonisation de bestioles qui viendraient d'ailleurs. Et c'est ce qu'on observe à certains points de la côte antarctique.
Mmh. Alain Hubert, quelle température en moyenne au plus froid de la saison en Antarctique, votre base ?
Votre question est importante. En Antarctique, il fait évidemment surtout froid aux alentours des côtes, jusqu'à 200 km à l'intérieur, en hiver, quand il fait presque noir. Alors, au niveau de la température, là où nous sommes, elle aussi entre moins 25 degrés Celsius et moins 6 degrés Celsius au plus fort de l'été, c'est-à-dire mi-décembre jusqu'à mi-janvier, alors qu'au centre de l'Antarctique, au pôle sud, par exemple, elle reste à moins 25, moins 30, même pendant l'été. Mmh. Et il faut peut-être ajouter que, à côté de la température, quand on vit là-bas, c'est surtout le vent qui, en fait, augmente l'impression.
Mais vous avez des montagnes un peu pour vous protéger du vent, quand même.
C'est très relatif. On a quand même des tempêtes. Cette année-ci était d'ailleurs une année désagréable au niveau conditions climatiques. On a eu beaucoup, beaucoup de vent. Et donc, c'est certain qu'avec un vent qui monte très, très vite à 60, 70, 80 km à l'heure, ben, l'impression de froid, elle arrive à moins 30, moins 35. Et c'est une autre chose, évidemment.
Il faut avoir dormi sous la tente à moins 25 la nuit. Dans la tente, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit.
Oui. Le hamac en Guyane, vous préférez, a priori...
Non, je préfère l'Antarctique, sincèrement. Oui, sincèrement.
Un vrai aventurier. Alors, Alain Hubert, comment est-ce qu'on construit une station zéro carbone ? Alors, on l'a expliqué un petit peu, mais quel est le grand principe pour ceux qui seraient inspirés par cette idée ?
C'est un peu le principe d'une maison passive. Donc, on en parle de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on peut construire ça chez nous en Europe. Donc, on doit s'attacher à étudier l'équation énergétique du bâtiment, savoir comment allons-nous produire l'énergie. Vous l'avez bien expliqué. En Antarctique, on a la particularité d'avoir beaucoup de vent, particulièrement en hiver et en été. Nous n'oublions pas qu'il fait clair 24 heures sur 24 et que le soleil est particulièrement présent. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, je dois ajouter que le bilan carbone de la construction de la station, lui, n'est pas nul.
Il faut apporter le matériel.
On est encore obligé d'utiliser, évidemment, des véhicules conventionnels et que ça, c'était quelque chose qui était irréalisable. Donc, voilà. Donc, c'est l'étude. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord définir le besoin énergétique, bien entendu, et puis après ça, voir comment on va pouvoir les produire de cette façon-là.
Est-ce que vous êtes amusé du point de vue de l'architecture ? Parce que quand on voit votre bâtiment, on a l'impression de voir un vaisseau spatial. C'est extrêmement futuriste, très beau design.
Eh bien, écoutez, on ne l'a pas fait exprès. Il n'y a pas d'architecte dans ce projet. Cette forme est apparue à partir du moment où on a défini la taille que devait avoir la station. D'ailleurs, la station, si vous voulez, aussi profite de la configuration du terrain, puisque tous les espaces techniques qui, eux, sont deux fois la taille de la partie supérieure de la station, sont enterrés dans la neige, juste derrière le rocher. Mais en fait, cette forme un peu octogonale, le spoiler et tout, est venue par une étude aérodynamique, parce que nous voulions mettre une station où la neige ne s'accumulerait pas et qui nous serait un minimum au niveau de
Vous avez retenu des leçons des précédentes stations.
Je crois que, en expédition, comme là-bas... La base, c'est d'apprendre de ses erreurs et surtout d'aller demander aux autres des tas de conseils pour apprendre plus vite. Oui.
Alors, on peut voir les images de cette base, un certain nombre de vidéos également, beaucoup de photos magnifiques que vous proposez. Alors, il y a deux sites internet qu'on peut conseiller, celui de la Polar Foundation, www.polarfoundation.org, et puis Antarctic Station, donc là, pour le coup, véritablement sur la station Princesse Elisabeth.
On trouvera directement des détails, et puis surtout plein de photos qui permettent...
Voilà.
C'est vrai que c'est un peu comme un insecte galactique, lui.
Ouais. Ah oui, on pourrait tourner un film autour de votre station. Je pense que ça peut donner des idées aux réalisateurs qui ont le courage de passer quelques temps.
Mais je voudrais peut-être juste ajouter, le fait c'est que construire une station comme celle-là dans le contexte dont nous avons parlé, qui est un public privé, une participation justement des citoyens, plein de gens sont venus, des professionnels, travailler bénévolement pour pouvoir construire ça. Donc on était là toute une équipe, on a fait ça en 2 fois 3 mois et demi.
Oui.
Et même aujourd'hui quand je le vois avec certaines lumières comme elles peut les avoir en Antarctique, tout à fait extraordinaire. Je me demande vraiment si c'est bien nous qui avons fait ça. Donc ça reste un mystère.
Cyril Daz, pourquoi les collemboles vous intéressent autant? Et pas seulement en Antarctique. Hein.
Alors il y en a sur toute la planète, ce qui est très intéressant. Et ils permettent de répondre à des tas de questions sur l'évolution. Moi, c'est l'évolution qui m'intéresse avant tout, la biologie de l'évolution. Et c'est un matériel d'étude, si vous voulez, absolument fascinant. Il y a plus de 8000 espèces décrites, probablement plus de 50 000 au total.
Donc groupe très important. Hein.
Très important, qui sont une lumière extraordinaire sur l'origine des insectes. Hein, et on les trouve partout, de l'Arctique à l'Antarctique, en passant par la canopée des forêts tropicales.
Et on les trouve depuis très longtemps.
400 millions d'années. Mm-hmm. C'est les plus anciens des hexapodes, c'est-à-dire des bestioles qui ont 6 pattes, si vous voulez.
Alors pourquoi ça vous intéresse autant?
Alors, pourquoi ça m'intéresse autant? C'est parce que justement, pour essayer de comprendre toute la biogéographie de la planète, et en particulier pour comment l'Antarctique communique en quelque sorte avec les autres masses de l'hémisphère sud d'un point de vue biologique. C'est un groupe formidable pour répondre à cette question-là. C'est un groupe qui présente des adaptations absolument hallucinantes. Je vous ai dit qu'on en trouve, en particulier dans la canopée des forêts tropicales. Je me suis rendu compte là en Guyane que c'était le groupe le plus important en termes de nombre de spécimens dans la canopée, ce qui est totalement inattendu. Et on les trouve là, sur les rochers où il n'y a rien à manger, ou presque, près de la station Princesse Elisabeth.
Ouais, mais il faut un sol humide, c'est ça? C'est la condition de vie pour ces insectes?
C'est des animaux qui ont besoin d'humidité. Et c'est vrai qu'en Antarctique, ils ne sont pas très bien servis de ce point de vue-là, parce qu'il fait tellement froid que l'eau n'est tout simplement pas disponible sous forme liquide.
Selon nos connaissances actuelles, quelles sont les limites pour le développement de la vie? Alors, ce qui va nous permettre justement de parler des conditions extrêmes de vie en Antarctique pour ces collemboles.
Eh bien justement, je ne vais pas vous donner une température, parce que ça, je n'en sais rien, et ce n'est pas forcément le critère important. Le critère important, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, de l'eau sous forme liquide pour que des animaux, des bactéries, des algues, puissent, des cyanobactéries, puissent se développer. Et en particulier, quand je vous parlais de ce paysage extraordinaire autour de Princesse Elisabeth, on a en gros ce plateau de glace et il y a ces nunataks qui dépassent, ces pointes de montagne, et on ne trouve rien quasiment partout, sauf à des endroits, par exemple à des pieds de glacier, vous allez avoir des rochers qui vont donc être un peu plus sombres, qui vont accumuler l'énergie du soleil, et là, la glace va goutte à goutte fondre. Et donc, on va avoir des micro-algues qui vont se développer, probablement des bactéries. Hein. J'ai une collègue qui a fait des tas de prélèvements pour étudier les bactéries. Et à partir de là, il y a une chaîne alimentaire qui peut se mettre en place, à savoir une ou deux espèces d'acariens et une espèce de collemboles qui, grâce à cette eau qui va être disponible de manière liquide, même de manière très éphémère, vont pouvoir se développer.
Ouais. Et alors, comment est-ce qu'ils résistent au froid quand même? Ils ont un processus
Alors, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je le voie de mes yeux. J'y aurais pas cru. Quand j'ai trouvé mes premiers collemboles au pied du Nunata Kutsteinen...
On ne savait plus le tenir, d'ailleurs.
Je sautais un peu dans tous les sens.
Ça y est, je les ai trouvés.
Voilà. L'enthousiasme est quelque chose qui est très, très partagé sur cette base. Et quand j'ai trouvé mes premières bestioles, il faisait quand même moins 13, il y avait du vent, et il y avait des bestioles qui étaient prises dans la glace. Donc on peut imaginer que les bestioles sont mortes. Et en fait, en retournant le caillou, en le mettant au soleil, cette glace s'est mise à fondre, et ces petits collemboles se sont mis à bouger. Alors ça, c'est complètement inattendu, parce qu'il faut aussi voir que c'est des animaux qui ont donc un rapport volume-surface très très faible, donc ils devraient être détruits de l'intérieur par les cristaux de glace, et ils ne le sont pas, parce qu'ils ont des protéines antigel qui les empêchent d'être pris en glace, qui empêchent la formation des cristaux de glace, et donc qui leur permet de résister au froid. ils vont se mettre à être en pause, en quelque sorte, en hivernation, mais ils ne vont pas être détruits par la glace. Et dès qu'il y a de nouveau des conditions favorables, ils vont se remettre à être actifs, tout simplement.
Si vous avez des contacts avec les terres australes et antarctiques françaises pour les inciter justement à aménager leur base au développement durable et tendre vers une autonomie énergétique respectueuse de l'environnement, est-ce que les Belges vont donner des leçons aux Français?
Mais bon, il n'est pas question de donner des leçons, c'est pas dans cet esprit-là, je crois qu'on collabore. C'est vrai que la station, le fait qu'elle se construise dans le cadre d'un traité antarctique, qu'on soit soumis à des contrôles environnementaux, donc est un exemple et fera date, forcément, mais je crois que de plus en plus, et les Français en particulier, il faut pas oublier qu'il y a la base en terre et délit qui est une base qui a été construite dans les années 60 et que donc on ne rénove pas aussi facilement ces affaires-là. Il y a des éoliennes qui ont déjà été testées là, des choses qui vont évoluer, j'en ai entendu parler. Mais les Français ont aussi construit une base avec les Italiens, Concordia,
oui.
Qui, elle, sur beaucoup de plans, est totalement différente. C'est une base moderne qui a quelques années, donc... Voilà, je pense que les Français sont très au courant de ça et ils travaillent là-dessus, c'est évident.
Merci beaucoup à tous les deux.